monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Ce matin, nous lançons le débat sur la crédibilité des Nations Unies. Il est vrai que l'organisation est affaiblie, elle est même discréditée par son impuissance dans la guerre en Syrie. En tout cas, depuis dimanche, depuis le 1er janvier, Antonio Guterres est le nouveau secrétaire général des Nations Unies et il promet de réformer l'organisation internationale. L'ONU doit se préparer à changer, a-t-il prévenu, particulièrement dans le domaine des opérations de maintien de la paix. Il plaide pour davantage de médiation, de diplomatie préventive. Il promet, d'une certaine façon, de mouiller sa chemise, contrairement à Ban Ki-moon, son prédécesseur, qui était, disons-le, pour le moins assez effacé. Il faut dire tout de même qu'Antonio Guterres a une sacrée expérience de la machine onusienne. Il a été à la tête du HCR durant 10 ans. Il a une forte personnalité et il ne pratique pas la langue de bois. Alors, quelle image avez-vous, justement, de l'ONU et du Conseil de sécurité? Une réforme vous semble-t-elle indispensable? Quelle réforme? Nous vous donnerons la parole. Vous nous appelez évidemment, 33 9 693 693 70. Déjà, pas mal de réactions standard, beaucoup de commentaires postés sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai quelques-uns tout à l'heure, évidemment, pour alimenter le débat et la réflexion. Mais d'abord, comme tous les matins, nous commençons l'émission avec vos questions à la rédaction. On va revenir sur un des sujets qui vient d'être abordé dans le journal. On va d'ailleurs retrouver sur place à Istanbul notre correspondant Alexandre Billette. Bonjour.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous en direct. Des questions qui nous arrivent sur l'attentat contre cette discothèque d'Istanbul pendant la nuit du Nouvel An. Une attaque qui, rappelons-le, a fait 39 morts et 65 blessés. Fidel nous appelle de l'ouest de l'Inde. Il est à Vadodara, exactement, dans l'état du Gujarat. Bonjour Fidel.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Merci. J'ai appris à travers les médias qu'une attaque terroriste a eu lieu au réveillon du Nouvel An à Istanbul en Turquie et revendiquée hier par l'État islamique. Alors mes questions sont les suivantes. Pourquoi la Turquie est devenue une cible privilégiée des attaques terroristes du fait qu'elle était accusée de laisser passer les terroristes sur sa frontière?
Alors Alexandre Billette, c'est vrai que l'année 2016 a été une année particulièrement violente en Turquie. Le pays a été endeuillé par de nombreux attentats, mais il n'y en a que deux pour l'instant qui ont été revendiqués par l'organisation de l'État islamique, dont celui de la nuit de samedi à dimanche, celui de la nuit de la Saint-Sylvestre. En revanche, les autorités attribuent à l'organisation une dizaine d'attaques commises ces derniers mois. Ce qui est vrai dans la question de Fidel, c'est que la Turquie a longtemps été épargné par Daesh, et on voit bien qu'au fil des mois, le pays est désormais devenu une cible.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on peut le comprendre en lisant le communiqué de l'État islamique, hier, en revendiquant l'attentat. Il y a deux éléments dans ce communiqué qui permettent de bien comprendre pourquoi la Turquie est devenue une cible pour Daesh. D'abord, il est fait mention dans ce communiqué des interventions militaires de la Turquie dans le nord de la Syrie, cette opération bouclier de l'Euphrate menée par l'armée turque en soutien aux rebelles de l'armée syrienne libre. Et bien pour Daesh, l'aviation et l'artillerie turque font, je cite, « couler le sang de musulmans », c'est ce qui est écrit dans le communiqué publié hier. Donc premier élément, c'est vraiment l'intervention militaire en Syrie. Ensuite, le communiqué évoque également la Turquie comme le défenseur de la croix des chrétiens. On peut certainement y voir une allusion, encore une fois, à la Syrie, mais à la coalition internationale anti-Daesh menée par les Américains et à laquelle participe la Turquie, notamment en permettant l'utilisation de ses bases aériennes, notamment celle d'Incirlik, dans le sud du pays. Donc voilà, désormais, la Turquie est considérée par Daesh comme, je dirais, comme un ennemi à part entière, alors qu'effectivement, vous le disiez, auparavant, ce n'était pas le cas. Le pouvoir turc avait une attitude, disons, plus ambigu en Syrie, mais maintenant, et d'ailleurs depuis quelques mois déjà, des publications de l'État islamique appellent ces militants djihadistes à frapper la Turquie et à frapper le pouvoir turc.
Ouais, la Turquie qui est en guerre donc contre Daesh, mais aussi contre les rebelles kurdes du PKK, qui est le parti des travailleurs du Kurdistan, qui est un parti interdit en Turquie, et lui aussi est à l'origine de nombreux attentats commis ces derniers mois. Donc il n'y a pas que les attentats de Daesh en Turquie.
Oui, tout à fait. C'est bien le problème d'Ankara et du pouvoir turc aujourd'hui, c'est-à-dire que le pays est en quelque sorte doublement visé par une double menace terroriste, et c'est ce qui explique les difficultés du pouvoir turc à réagir, à répondre à cette vague d'attentats qui frappe le pays depuis l'été 2015.
Ouais. Fidel, vous avez une autre question?
Moi, c'est une question de savoir comment le gouvernement turc doit se prendre pour faire face à ces attaques.
Alors, le président Erdogan, Alexandre Billet, a réaffirmé sa détermination à combattre le terrorisme. De quelle façon, avec quels moyens?
Et c'est toute la difficulté, en fait. Le gouvernement turc, après chaque attentat, effectivement, répète qu'il va lutter contre la terreur, que les terroristes seront écrasés jusqu'au dernier. Et en visant, on disait juste auparavant, autant les djihadistes de Daesh que les rebelles kurdes du PKK. Mais le pouvoir turc est bien impuissant face à ces deux groupes. Regardez par exemple, le 31 décembre justement, il y avait 16 000 policiers que pour la ville d'Istanbul. Et pourtant, il y a eu cette attaque, ce massacre dans la discothèque Reina. Donc en ce qui concerne Daesh et la Syrie, par exemple, le pouvoir turc a encore répété hier qu'il ne renoncerait pas à ses opérations militaires en Syrie malgré les menaces, malgré les attentats. Ankara qui a donc aujourd'hui tout intérêt à voir le groupe État islamique disparaître, mais c'est donc très difficile. Ensuite, à l'intérieur du pays, eh bien justement, le PKK frappe lui aussi et il n'y a pas l'ombre d'un début d'ouverture de négociation même entre le pouvoir turc et les rebelles. Donc pour le moment, du moins, le pouvoir turc a très très peu d'outils, très très peu de moyens à sa disposition pour faire face à cette vague d'attentats.
On vous garde encore quelques instants, Alexandre Billet, reste avec nous en direct d'Istanbul. Fidèle, on vous souhaite une bonne journée à Vadodara, dans l'état de Gujarat, donc en Inde. Autre question, toujours après cette attaque dans une discothèque d'Istanbul. Didier, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Vous nous appelez de Kampala en Ouganda, nous vous écoutons.
Oui, Juan, je voudrais savoir, il y a eu 400 morts l'année passée liées aux attentats en Turquie. Est-ce qu'on peut parler du faille des services de sécurité turcs? Deuxièmement, je voudrais savoir où sont les informations. Est-ce que la police turque dispose beaucoup plus d'informations sur le profil de la personne qui a commis l'attentat le 31?
Oui, l'assaillant qui est toujours en fuite, on va y revenir dans un instant, Alexandre Billet. D'abord, effectivement, 400 morts en un an et demi, pour être exact, une cinquantaine d'attentats depuis le milieu de 2015, la mi-2015. Y a-t-il une faille des services de renseignement? Voilà une bonne question. A priori, on s'attendait à un attentat, vous le disiez à l'instant, Alexandre Billet, 16 000 policiers déployés pour la nuit du 31 décembre dans les rues d'Istanbul. Malgré tout, l'attentat a pu être commis.
Oui, tout à fait. C'est une polémique qui enfle et qui, d'ailleurs, après chaque attentat est soulevée en Turquie, sur cette faille éventuelle, ces failles éventuelles des services de renseignement turcs. En fait, pour bien comprendre, il faut revenir un instant sur cette lutte entre le pouvoir turc et Fethullah Gülen. Vous savez, cet imam exilé aux États-Unis qui est accusé par Ankara d'être derrière la tentative de putsch de cet été. Mais la lutte entre Fethullah Gülen et le pouvoir turc remonte à bien plus longtemps, à au moins 2014. Et la police, les services de renseignement, le ministère de l'Intérieur turc, bref, toutes les institutions de sécurité publique ont été touchées, particulièrement touchées par les vagues de licenciements, les purges contre les sympathisants de Fethullah Gülen depuis 3 ans, ce qui a déstabilisé ces institutions qui sont même, selon certains, décapitées, donc en licenciant ses officiers supérieurs, ses agents de renseignement, eh bien le pouvoir turc s'est en quelque sorte coupé d'une partie de sa force, a perdu une partie de ses capacités. Et c'est une polémique qui refait surface. Donc après chaque attentat, par exemple, aussi après l'assassinat de l'ambassadeur russe à Ankara en décembre, puisque le tireur était lui-même un jeune policier. Donc cette impuissance des services de renseignement, c'est une polémique qui a été évoquée, qui est évoquée après chaque attentat, qui a été évoquée effectivement à nouveau après l'attentat de la Saint-Sylvestre dans la discothèque, sur l'absence de renseignements fiables quant aux militants de Daesh qui circulent aujourd'hui dans le pays.
Ouais. Plus de 48 heures après cet attentat, que sait-on du profil de l'assaillant qui est toujours recherché? Il est l'homme le plus recherché de Turquie à l'heure actuelle. Est-ce qu'on a des informations sur lui?
Alors effectivement, il n'a pas été formellement identifié par les enquêteurs, mais il y a des informations, des éléments qui sont communiquées depuis hier. Alors déjà 12 personnes ont été placées en garde à vue à Istanbul hier midi, ensuite 4 hier soir. Les empreintes digitales du tireur ont été relevées, a confirmé le ministre de l'Intérieur hier. On voit sur Internet des photos assez précise d'un jeune homme brun aux cheveux bouclés. On voit même certaines vidéos, notamment lorsqu'il entre dans la discothèque, ou encore des vidéos qui circulent sur Internet où on le voit changer des billets dans un bureau de change d'Istanbul.
Donc, Alexandre, pour que les choses soient claires, on le voit de façon précise ou pas? Est-ce qu'on a une photo précise, des images précises de l'assaillant?
Oui, tout à fait, on le voit de façon très nette. Les premières photos étaient assez floues, on voyait presque une ombre, mais par la suite, on a vu des photos et certaines vidéos qui sont très clair, on le voit faire un vidéo selfie, par exemple, sur la place Taksim, on le voit dans un bureau de change, et ce sont des photos qui sont très très précises, très claires, on voit très bien son visage. Et donc, probablement, les enquêteurs sont sur une piste, se rapprochent d'une piste pour avoir toutes ces informations et tous ces éléments communiqués, ou en tout cas diffusés par les médias. La presse turque, qui évoque même déjà un lien de cet homme avec le groupe qui aurait préparé un autre attentat, celui contre l'aéroport d'Istanbul. Rappelez-vous, c'était en juin dernier. Donc ce serait une cellule de l'État islamique composée de militants originaires d'Asie centrale. En tout cas, c'est ce que rapporte la presse turque. Les informations n'ont pas été confirmées par les autorités turques, puisque, et c'est de l'aveu même du vice-premier ministre turc qui l'a affirmé hier soir, l'enquête est très très difficile à mener.
Enquête à suivre avec vous, notamment notre correspondant à Istanbul. Merci Alexandre Billet d'avoir été avec nous. On a répondu à vos questions, Didier? Ah, on a perdu Didier. Bon, ça vient juste à l'instant de couper, tant pis. Bonjour Harim Lipold.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste au service international d'RFI. Je me fais le porte-parole de Karim. Le réseau téléphone est trop mauvais avec Kolia, qui est à en Côte d'Ivoire, à 360 kilomètres de la capitale. Karim souhaite revenir sur l'expulsion de 35 diplomates russes. Ils ont été expulsés par Barack Obama.
Ils sont partis dimanche.
Ils ont quitté Washington et ils sont arrivés avec leur famille à Moscou. Et Karim nous demandait si ces sanctions américaines empêcheront leur rapprochement avec la Russie souhaité par Donald Trump. On sait que Donald Trump est un fan, pour dire clairement les choses, de Vladimir Poutine. On sait que Vladimir Poutine également apprécie le président élu américain Donald Trump. Pour l'instant, on voit bien que Vladimir Poutine attend que Donald Trump arrive à la Maison-Blanche pour
Exactement.
Décider de la suite. Hein.
Tout à fait, oui, c'est un peu difficile à répondre à cette question, car le rapprochement avec la Russie, ça va se décider aussi sur d'autres paramètres, et pas seulement sur les sanctions qui sont, disons-le, aussi assez symboliques finalement. La plus spectaculaire est effectivement l'expulsion des 35 diplomates et de leur famille. Après, vous avez la fermeture des deux sites utilisés par les services de renseignement russes, et puis des sanctions économiques contre deux services russes, le GRU et le FSB. Leurs avoirs ont été gelés aux États-Unis, donc finalement assez symbolique.
Et le FSB, ce sont les services secrets, et le GRU, ce sont les services de renseignement militaire
russes. Tout à fait,
hein, voilà,
pour qui n'ont pas beaucoup d'avoirs aux États-Unis. Donc, effectivement, Vladimir Poutine joue pour l'instant plutôt profil bas, car contrairement à ce qui était annoncé par son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, il n'a pas pris de mesures de rétorsion, ce qui est assez inédit finalement, parce que normalement, dans ce cas de figure, un gouvernement réagit tout de suite en expulsant lui-même les quelques diplomates de l'autre pays, en les déclarant persona non grata. Donc
c'est quoi? C'est une volonté de calmer les tensions?
C'est une volonté de calmer les tensions, c'est une volonté aussi de dire, finalement, j'attends effectivement l'arrivée de Donald Trump, j'attends le 20 janvier et on va repartir sur de nouvelles bases.
Oui, calmer les tensions est aussi une façon finalement de snober Barack Obama, de faire comme s'il n'était plus
comme
à la Maison-Blanche.
Comme si cette décision était finalement pas si importante.
Voilà, c'était de la diplomatie de cuisine, a dit Vladimir Poutine en parlant de l'expulsion des 35 diplomates russes. Rapidement, Karim nous posait également la question de savoir si d'autres pays pourraient suivre les États-Unis dans ses sanctions.
Oui, c'est vrai qu'Obama,
à l'égard de la Russie, d'autant qu'Barack Obama a demandé à ses alliés justement de le suivre dans cette
initiative. Oui, il a demandé une sorte d'union sacrée internationale. Pour l'instant, je pense que c'est très très improbable que d'autres pays suivront les États-Unis, notamment dans les sanctions. Rappelons qu'il y a toujours des sanctions en vigueur contre la Russie à cause de la crise en Ukraine. Et rappelons juste que le pays le plus touché par les cyberattaques russes a été l'Estonie en 2007. Et ce qui n'a pas fait beaucoup réagir à l'époque les alliés de l'OTAN. Donc on peut pas finalement, on peut pas penser qu'il y a beaucoup de réactions de la part d'autres alliés comme la France ou l'Allemagne par exemple.
Merci Arim Lipold d'être venu répondre à Karim qui nous appelait donc de Colia en Côte d'Ivoire. On va terminer avec une question football et on va s'intéresser surtout au championnat chinois, à la Chinese Super League. Bonjour Mohamed.
Oui, bonjour, monsieur Ron Gomez.
Vous nous appelez de Ouagadougou, au Burkina Faso.
Oui, très bien.
On vous écoute.
Bon, il y a quelques jours, le joueur argentin Carlos Tevez a signé son contrat avec un club chinois à près de 40 millions d'euros par an. Ce qui fait de lui le joueur le plus payé au monde devant tous les stars des championnats européens. Mm-hmm. Comment expliquez-vous le salaire plus élevé des joueurs en Chine par rapport aux joueurs en Europe? Quel est le niveau sportif du championnat chinois? Est-il devenu meilleur qu'avant?
Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que Carlos Tevez a signé un gros contrat, 38 millions d'euros par an pour être plus précis. Bonjour Alexandre Seban.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Journaliste au service des sports d'RFI. Comment expliquer une telle démesure? On a l'impression que la Chine a vraiment envie de jouer désormais dans la cour des grands.
En effet, plusieurs raisons à ces salaires qui dépassent l'entendement. Tout d'abord, il faut s'intéresser aux propriétaires. Qui sont les propriétaires des clubs chinois? Trois exemples. L'actuel sextuple champion en titre, le Guangzhou Evergrande, est détenu par Alibaba. Le sort de eBay chinois, détenu par Jack Ma, le milliardaire. Le club est aussi détenu par Evergrande Real Estate, un des plus grands groupes, un des plus grands promoteurs immobiliers en Chine. C'est plusieurs milliards de chiffre d'affaires par an. Le deuxième exemple, le rival, le Shanghai Shenhua, où évolue le Nigérian Obafemi Martins, par exemple, est détenu par le milliardaire Zhu Jun. Enfin, le Hebei China Fortune, qui a recruté l'Ivoirien Gervinho ou l'Argentin Lavezzi, eh bien, est aussi détenu par un groupe immobilier qui réalise des milliards de dollars de profits. Et en plus de propriétaires richissimes, il faut savoir que la règle du fair play financier mise en place en 2010 par l'UEFA pour les clubs européens n'existe pas en Chine. Donc les clubs peuvent se voir abreuver de centaines de millions d'euros par leur direction afin d'acquérir les meilleurs joueurs, et ce, avec des salaires mirobolants comme celui de Carlos Tevez.
Effectivement, on rappelle cette somme, 38 millions d'euros par an, ce qui fait à peu près 14 000 euros par minute qu'il passera sur le terrain. Mohamed nous demandait aujourd'hui concrètement que vaut le championnat chinois en termes de qualité sportive.
Alors, pour être honnête, Juan, je ne regarde pas le championnat chinois, cependant, je pense qu'il y a plusieurs facteurs essentiel qui prouve aujourd'hui que le championnat s'améliore d'année en année. Première observation, eh bien, une Ligue des Champions remportée par un club chinois avant 2010, deux depuis 4 ans remportées par le Guangzhou Evergrande. Ensuite, de plus en plus de très bons joueurs arrivent en Chine. Si je vous dis donc Tevez, vous êtes au courant.
Bien sûr.
Si je vous dis Drogba, Hulk, Gervinho, Dembaba, Stéphane Bia, Lavezzi, Jackson Martinez, Guarín, Ramirez, tous ont joué ou jouent actuellement.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, c'était ceux qui était quasiment à la retraite qui allait jouer en Chine. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Ce n'est plus le cas, la preuve. Et donc, forcément, grâce à eux, le niveau du championnat s'apprécie, évidemment. Ajoutons à cela que de nombreux entraîneurs de renom viennent diriger des équipes chinoises. On se souvient de Marcello Lippi, le sélectionneur de l'Italie championne du monde en 2006. Mais aussi Luis Felipe Scolari, le Brésilien, l'ancien de Manchester City Manuel Pellegrini, l'ancien joueur serbe Dragan Stojkovic, le Brésilien Mano Menezes ou encore l'Italien Alberto Zaccheroni. Forcément, ces gens diffusent leur science au quotidien aux Chinois, dans les clubs chinois, et des clubs qui cherchent aussi à faire des partenariats avec des clubs européens pour faire venir des éducateurs pour essayer d'éduquer les enfants sur place aussi.
Effectivement, et derrière tout ça, il y a une volonté politique, même du président chinois, qui veut absolument que la Chine puisse organiser la Coupe du Monde d'ici 10 à 15 ans, et voire même gagner dans les prochaines années. Merci Alexandre Seban, 9h30 à Paris.
Priorité santé.